Zeus.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe?
Je ne peux pas vous le dire.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Vous me recevez à vous parler.
Qui êtes-vous?
Je n'en sais rien. Et je compte bien le découvrir.
Fini la rigolade.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil? Qu'est-ce que vous faites?
Votre émission hebdomadaire sur le cinéma.
Vous avez une autorisation?
Bien entendu, j'en ai une.
Cinérama.
Ce nom, je l'encaisse pas.
Ben ça, c'est ton problème.
Chronique, blind test, interview.
Eh ben, c'est génial.
Amusez-vous bien.
C'est gentil.
Tout le plaisir est pour moi.
Bonjour, bienvenue Cinérama. Une demi-heure pour parler de cinéma au travers de chroniques de films qu'on a vus. Et toi, tu en as vu un, Sophia?
Oui, Blue Heron de Sophie Romvary.
Et puis tu as trois films, Guillaume.
Oui, je vous parlais de Backrooms, de Iga la mouche vengeresse et de Toy Story 5.
Et moi, je vous parlerai de L'étrangère et puis on aura l'occasion de jouer un blind test autour de la filmographie de Kurt Russell parce qu'il y a New York 1997 qui ressort sur les écrans.
Chef d'œuvre.
Mais nous commençons avec le bouleversant parcours d'une mère réfugiée prête à tout pour retrouver son enfant et reprendre le contrôle de sa vie. C'est L'étrangère.
Dans la vie, quand une chose n'est pas sérieuse, on dit c'est du cinéma.
Cinérama.
Nous en parlerons tout à l'heure.
Mon mari est prisonnier politique en Syrie. Il est probablement mort.
Qu'est-ce qui vous est arrivé?
Un accident.
Du parcours de Selma, syrienne ayant quitté son pays où elle était menacée pour atteindre la France, on ne saura pas grand-chose, hein, à part qu'il a fallu marcher, se cacher, entendre les chiens qui aboient et se faire prendre les empreintes dans un pays qu'elle ne voulait pas spécialement côtoyer, la Hongrie. Sa destination à Selma, c'est la France. Et c'est là, à Bordeaux, qu'on la retrouve très vite, travaillant à la plonge dans un restaurant, faisant le ménage dans une entreprise et étant hébergée par un couple syrien. Une vie d'exil et de labeur, c'est cela que l'on perçoit. Une vie loin des siens aussi, car se multiplient les séquences où l'immigré discute avec sa mère et surtout son fils de 6 ans qu'elle n'a pas pu prendre avec elle car il était trop jeune. Sa mission à Selma, se faire accepter par la France avec un droit de séjour et faire venir son fils. Quant à son mari, eh bien ça c'est une autre histoire car cela fait longtemps qu'elle ne l'a pas vu. Parti manifester un jour, il n'est plus revenu au domicile, croupissant dans une prison du pouvoir.
Je travaille en face.
Oui, je sais, oui. Et rentrez.
J'ai besoin d'un avocat. J'ai un fils qui est resté en Syrie.
Je m'occupe du dossier de la migrante dont je t'ai parlé, là.
Tu vas avoir le temps pour ça?
Tout ce qui apparaît dans votre récit, ce courage, c'est ça qu'il faut raconter.
Ce qui frappe dans L'étrangère de Gaïa Jihi, elle-même immigrée syrienne, eh bien c'est de ne pas se contenter de traiter du sort administratif des étrangers, mais aussi eh bien, du sentiment plus profond d'être étranger soi-même et aux autres. Un sujet qu'elle a nourri de sa propre expérience. Alors le gros problème de Salma, interprété par Zahra Mir, qui était prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes, c'était en 2002 pour Les Nuits de Machad, eh bien, c'est le premier pied qu'elle a posé officiellement en Europe, qui fut la Hongrie. Or, en vertu de la loi Dublin, elle doit faire sa demande d'asile dans le premier pays européen où elle a été enregistrée. Une situation évidemment absurde, puisqu'elle était prof de français en Syrie, c'est tout naturellement en France qu'elle veut rester. Elle cherche donc à contourner le règlement européen pour rester dans notre pays.
Tu l'as aidé, tu t'es senti utile, mais il faut que ça s'arrête.
C'est pour ça, Inès. Quand je le vois, je me rends compte que je me suis trompé de vie.
Salma Habibdi. Il faut plus qu'on se voit.
Je suis vraiment heureux pour toi.
Alors elle repère Jérôme, un avocat qui vient régulièrement au restaurant et dont le cabinet est juste en face. Un jour, elle décide donc d'aller le voir. Et là, il se passe quelque chose. L'avocat interprété par Alexis Mananti, Messi, le sale flic dans Les Misérables de Ladjili, va d'abord expliquer que sa partie à lui est bien sûr le droit fiscal avant de décider d'aider Selma. Une décision qui, à mesure que le film avance, ne semble pas tout à fait désintéressée. L'homme semble sensible au charme de sa cliente. Il s'abrutit au travail car il ne veut pas rentrer chez lui où l'attend pourtant sa compagne. De son côté, Selma sent confusément qu'elle aurait besoin de se reconstruire sentimentalement. Elle dit cette phrase majeure à propos de son mari en prison depuis des années, « Je ne sais si je préférerais qu'il soit mort ou vivant. Tout est dit, le temps détruit tout », aurait aussi dit Gaspard Noé.
«
شو صار
لي؟ انت مفكرة انه فينا نطلع من كل شي صار فينا هيك؟
عم اعمل كل شي مشان هالشي.
Une liaison s'est installée, hein, mais elle apprend que son mari a été libéré. Il est alors temps de faire un regroupement familial. Tout pourra aller pour le mieux, hein, pour Selma qui peut se reconstruire loin de la guerre civile et retrouver sa famille. Sauf que ce n'est pas si simple, les sentiments s'accordent peu avec les obligations. Si la réalisatrice introduit l'histoire d'amour entre l'avocat et l'immigré de manière, alors je trouve, un peu trop téléphonée, ce qui est un point faible, hein, du récit, elle parvient à mieux installer le dilemme qui surgit quand le mari revient, lui-même se rendant compte, eh bien qu'il est de trop dans une séquence qui unit les trois personnages. Alexis Menanti joue cet avocat qui ne veut pas s'imposer, mais qui exprime son attachement, avec une économie de mots, hein, qui perfuse l'ensemble du récit. Beaucoup d'éléments de compréhension passent effectivement en dehors des dialogues, avec une mise en scène qui suit son personnage principal dans ses doutes, ses envies et ses silences. Ce film, qui m'a paru très juste, hein, L'étrangère de Gaïa Jihi, est en salle depuis le 24 juin. Un simple passage secret entraîne ses victimes dans un dédale infini où chaque couloir semble plus inquiétant que le précédent. Nous parlons de Backrooms.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
C'est un passe-temps surprenant.
J'ai trouvé quelque chose. Dans le magasin.
Ok. Qu'avez-vous trouvé ?
Un endroit. J'ai trouvé un endroit.
En 2019, une simple photographie postée sur Internet a fait naître l'une des légendes urbaines les plus populaires de l'ère numérique. Alors des bureaux vides, une moquette jaunâtre, des néons blafards, un espace qui semble à la fois claustrophobique et infini, bref, à la fois rien de bien folichon et en même temps la porte ouverte à toutes les fenêtres de l'imagination. Alors très vite, les internautes s'emparent du concept et construisent collectivement le mythe des backrooms, ces lieux situés à la frontière du réel où on pourrait accidentellement basculer à travers une faille de notre monde pour se retrouver prisonnier d'un labyrinthe sans fin. Quelques années plus tard, Kane Parsons, 21 ans seulement, transforme ce phénomène internet en long métrage produit par A24 et Atomic Monster, la boîte de James Wan, qui fut révélée peu ou prou au même âge avec le désormais cultissime Saw. Mais la donne a changé depuis le premier Saw, il y a une nouvelle génération de créateurs issus de YouTube qui colonisent Hollywood sans passer par les circuits traditionnels, comme Curry Barker et son formidable Obsession, et qui lui aussi casse tout au box-office mondial.
Y'a quelqu'un ?
Je sais que ça paraît dingue, mais c'est immense là-dedans.
Je ne dis pas que je vous crois pas du tout.
Ok, je vais revenir ici avec des preuves. C'est bon, tu filmes ?
Ouais.
Suivez mes instructions.
Clark, c'est quoi ça ?
C'est ce que j'essaie de découvrir. Je passe toutes mes nuits ici depuis que j'ai trouvé cet endroit, et j'avais encore jamais vu ces salles. On va y aller doucement.
Pourtant, réduire Backrooms à une simple adaptation de Creepypasta serait une erreur. Parsons ne se contente pas de reprendre les idées développées dans ses courts-métrages viraux, il cherche à donner une forme cinématographique à une angoisse profondément contemporaine en mettant de côté le logiciel Blender qui l'avait aidé à construire l'univers d'origine et en développant ce que l'on peut appeler désormais une mythologie. Alors un homme peu aimable et peu aimé, propriétaire d'un magasin de meubles, découvre une espèce de porte à travers un mur qui amène à une réalité altérée. Il va petit à petit explorer cette zone morte, comme dirait Stephen King, mais ce qu'il cherche à comprendre et à attraper pourrait bien le croquer en retour. Alors le film se déroule dans les années 90, bien avant l'explosion des intelligences artificielles génératives, mais il est littéralement impossible de ne pas y penser. Comme une image produite par une machine, les backrooms ressemblent au réel sans jamais parvenir à le reproduire parfaitement. Les lieux semblent familiers mais provoquent l'angoisse, les objets bavent à travers les murs et les sols, les espaces ont été recréés sans que leur logique profonde soit respectée, nous sommes dans un monde où les copies finissent par remplacer l'original et où la représentation déformée et dégénérée se substitue peu à peu à la réalité.
Oh putain. Remontez-moi, allez !
Tu vois quoi ?
Toutes ces pièces, cet endroit les a construites. C'est comme un labyrinthe qui n'en finit pas. Par moments, j'ai peur de me perdre.
Clark, vous m'entendez ?
Et c'est probablement ça, hein, la clé de l'énorme succès de ce film, hein, d'arriver à figurer, hein, cette angoisse moderne via la métaphore du fantastique. Alors personne, ça ne parle pas seulement de monstres ou de labyrinthes, hein, il capte une angoisse, hein, diffuse, bah, qui traverse toute sa génération, à la fois esclave du numérique et angoissée à l'idée d'être remplacée par lui. Et visuellement, bah, ça marche, hein, certaines séquences en mode VHS, hein, produisent un véritable sentiment d'inconfort métaphysique et on partage la désorientation des personnages. Mais qui dit long métrage dit aussi, bah, plus long traitement, hein. Et là où les vidéos YouTube de personnes frappées par leur pouvoir de suggestion, Backrooms, lui, hein, peine parfois à justifier sa durée d'1h50 quand même. Cette faiblesse est d'autant plus perceptible, hein, que l'œuvre convoque un imaginaire déjà sanctifié par les adeptes de Lynch, hein, la loge noire, hein, de Twin Peaks en tête. Alors comme chez Lynch, les personnages évoluent dans un espace qui semble exister en marge du monde réel, régi par des règles mystérieuses et une logique inaccessible.
Venez voir. Après, c'est encore mieux. Vous avez bien une caméra, hein ? Sinon, vous pouvez la relouer.
Tu nous as toujours pas dit ce qu'on allait faire, mec.
Si, je vous l'ai dit. Des recherches.
C'est quoi ce truc ?
Alors malgré ses longueurs, hein, ses répétitions, et pour moi le plus gros défaut, hein, c'est le manque de sympathie que l'on éprouve pour ses personnages et la volonté d'expliquer un peu trop vite, hein, le mythe dans un troisième acte très bavard, bah Backrooms se révèle un auteur, un jeune auteur, capable de saisir les angoisses de son époque et de les traduire, hein, dans des formes qui parlent littéralement et indéniablement au public. Alors on comprend pourquoi Hollywood, hein, lui a déjà confié l'adaptation cinématographique, hein, du génialissime jeu vidéo Portal, tant les obsessions de Parsons semblent naturellement dialoguer avec l'univers de ce jeu. Reste à espérer que ce nouveau projet lui permettra de démontrer ce que Backrooms laisse parfois entrevoir sans jamais totalement l'accomplir pour l'instant, hein, bah, qu'il est capable de bâtir un grand récit à la hauteur de toutes ses idées visuelles.
Et ce Backroom est dans beaucoup de salles françaises. Allez, maintenant, on joue avec la filmographie de Kurt Russell. C'est parti.
Cinérama.
Il est votre sac.
Interview, chronique, blind test et tout le reste.
Est-ce que je suis clair ?
Alors, nous allons découvrir 5 extraits de la filmographie de Kurt Russell, tout simplement parce que New York 1997 ressort sur les écrans 45 ans après. Allez, c'est parti, premier extrait.
Je pourrais savoir ce que je fais là. J'ai un marché à vous proposer. Une possibilité de pardon pour tous les actes criminels que vous avez commis aux États-Unis. Il y a un accident. Il y a maintenant environ une heure, un petit avion s'est écrasé au centre de New York. Le président était à bord.
Président de quoi ?
Je déteste qu'on se foute de moi. On vous y envoie. Trouvez le président, ramenez-le-moi ici dans les 24 heures et vous êtes un homme libre.
Dans les 24 heures, hein ?
Je vous ai offert un marché.
Un marché de con.
Vous avez tout à y gagner.
Je vais y réfléchir.
Pas le temps. Quelle est votre réponse ?
Cherchez un nouveau président.
Nous sommes en guerre, Plissken. Nous avons besoin de lui vivant.
Et qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, de votre guerre ? Et de votre président ?
C'est là votre réponse ?
J'ai besoin de réfléchir.
Réfléchissez vite.
Trouver parce que c'était facile.
Ouais, c'était New York 97.
Et oui, donc sorti en 81, film de John Carpenter qui a fait 1 million d'entrées en France. Dans un futur où Manhattan est devenu une immense prison à ciel ouvert, l'avion du président s'y écrase et Snake Plissken, un criminel cynique et badass, a 24 heures pour le sortir de là en échange de sa grâce. C'est vraiment un chef-d'œuvre post-apocalyptique, sombre et ironique d'un grand maître du cinéma.
Et Kurt Russell ici doublé par le très regretté Patrick Fluersheim qui double aussi Michael Douglas.
Eh oui, c'est vrai. Allez, deuxième extrait.
Major Marquis Warren, je vous présente Daisy Domergue. Domergue, tu lui donneras du Major Warren.
Salut le nègre.
Quelle toupet, là. Écoute, ma fille, tu sais pas que les noirs veulent pas qu'on les appelle des nègres ? Ils trouvent ça insultant.
J'ai eu pire comme insulte.
Ça, j'ai aucun mal à le croire. Jamais entendu parler d'elle.
J'aurais dû.
Ah ouais, d'accord, c'est pas Jesse James. Mais vous êtes peut-être au courant de la récompense pour sa tête.
Combien ?
10 000 dollars.
Mazette ! Mais qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a tué la reine Victoria ?
Pas tout à fait. Ces 10 000 dollars, je les ai déjà pratiquement en poche. Alors, je suis pas très emballé par l'idée de voiturer des gens, surtout des confrères à l'affût de bonnes affaires.
Je comprends bien votre réticence, mais j'ai aucune visée sur cette fille.
C'est trouvé, Sophia.
Oui, c'est Les 8 salopards.
Oui, ce film de Quentin Tarantino de 2016 avec Kurt Russell, qui n'a pas la même voix que tout à l'heure, hein, Samuel Lee Jackson. Ça fait 1,7 million d'entrées en France. Un chasseur de primes et sa prisonnière sont coincés par un blizzard dans un refuge de montagne avec un groupe de parfaits inconnus, tous plus louches les uns que les autres. C'est un huis clos façon western, ultra violent et plutôt bavard.
Et à noter que c'est une référence à notre film de Kurt Russell, ce que Tarantino a dit que... ouvertement qui s'inspirait de The Thing.
Ah, bon, je ne savais pas. Allez, troisième extrait, nous cherchons un film avec Kurt Russell.
Vous savez, quand on voit un mec menacer sa femme, on sent vachement impuissant. Vous avez fait ce que vous pouviez, Michael. Je pense qu'il fallait des couilles pour se lancer après ça.
Oui, il y a eu un moment là où il la tenait devant lui, j'avais ce putain de club de golf à la main, mais je croyais que j'allais... Mais j'ai lâché le club. C'est un vrai cauchemar quand on pense à ce qui aurait pu arriver à Karen. Mais je vais vous dire une chose, je voudrais bien me retrouver devant cet enfoiré.
C'est vrai?
Ah ouais? Un raclé que je lui filerais à ce type.
Je veux bien vous croire.
Pas vous?
J'ai une bonne idée de ce que je lui ferais, moi. Je me demandais ce que ferait un gars civilisé comme vous.
Ce qu'il a fait à Karen, je pense que la loi, il n'y en a rien à foutre. Je lui ferais péter le ventre.
Michael, c'est une terreur.
C'est trouvé.
C'est de l'excellent Obsession Fatale avec le regretté Ray Liotta.
Eh oui, film de 1992 de Jonathan Kaplan. 338 000 entrées en France, un thriller d'angoisse domestique où un couple sans histoire se fait cambrioler. Un policier joué par Ray Liotta intervient, mais il devient rapidement obsédé par la femme et commence à s'immiscer dangereusement dans leur vie. Et Kurt Russell joue le mari. Quatrième extrait.
Putain, qu'est-ce que tu fous ici? T'as failli te faire tuer, mon pote.
Ah bon? Moi, je dirais plutôt que c'est l'inverse.
Je vois pas ce que tu veux dire. J'appuie sur la détente et ta gorge va s'accrocher au mur derrière.
Maman, t'appuies sur la détente et je te fais exploser en deux. T'imagines le tableau?
Là, mon vieux, tu te gourres vachement. Ouais. Tu me toucheras jamais avec ce flingue.
Pas avec celui-ci. Avec celui-là.
Tu me connais?
Ouais, on dit que t'es le deuxième meilleur flic de Los Angeles.
C'est drôle, on m'a dit la même chose de toi.
Dégage de mon enquête.
Ah, parce que c'est ton enquête?
Je suis dessus plutôt à moi, ça en fait mon enquête.
Oh, bah alors ça prouve que t'es stupide, parce que moi je suis dessus depuis une demi-heure et on en est au même point.
Tire-toi de mon enquête.
Jolie cravate.
Trouvé.
C'est l'improbable tango et cash du pourtant cérébral Andrei Konchalovsky.
Et oui, avec Sylvester Stallone, dont on entendait la voix française. Film sorti en 1990, qui a réuni presque 900 000 spectateurs en France. Le buddy movie par excellence, hein, de la fin des années 80. Deux flics rivaux au style opposé, Stallone en costard chic et Russell en mode tête brûlée, sont piégés par un baron de la drogue et envoyés en prison. Ils doivent s'évader et faire équipe. Et le film a récolté quand même 3 nominations aux Razzie Awards, hein, c'est les récompenses des plus mauvais films, et il y a une récompense assez drôle, il l'a pas eu, hein, mais Kurt Russell était nommé comme pire actrice, puisque effectivement il y a une scène où il est déguisé en femme.
Oui.
Voilà. Allez, c'est parti, dernier extrait de ce blind test.
T'as déjà vu ce mec?
Je l'ai vu devant chez Guerros.
Et je t'ai vu aussi devant chez Guerros. T'as maté ma tire, j'ai vu tes guiboles, et alors, ça veut pas dire que je vous file le train, mais plutôt que je suis sensible à la beauté des filles.
Alors tu nous as suivis ou pas pour
filer? Je t'ai pas suivi, Butterfly. J'ai juste eu de la chance. Alors, est-ce que tu vas me la faire, cette lap dance?
C'est dommage, mais c'était l'offre d'un soir. Elle s'est déjà frottée sur les genoux d'un type chez Antoine.
Non, c'est faux.
Et comment tu le sais?
Je suis bon à ce jeu-là. Ça se voit que t'es touché.
Comment ça touche?
Je vois que t'es blessé.
Pourquoi moi je serais blessé?
Parce que tu pensais qu'il y aurait plein de mecs autour de toi ce soir, mais quand on voit ton regard, on comprend que personne t'a tourné autour. Et ça doit faire de la peine, je crois. Y a rien de plus ravissant que de voir un ego meurtri sur le beau visage d'un ange.
Et c'est trouvé, Sophia.
Et oui, encore un Tarantino, Boulevard de la Mort.
Oui, film de 2007, 627 000 entrées en France seulement pour ce film, assez curieux. Kurt Russell incarne Stuntman Mike, le cascadeur Mike, sa voiture de cascade prétendument à l'épreuve de la mort pour massacrer des groupes de jeunes femmes. L'intérêt repose donc sur l'esthétique rétro, hein, des films d'exploitation des années 70. Ainsi s'achève ce blind test consacré à la filmographie de Kurt Russell pour la ressortie de New York 1997. Sous les apparences d'un été paisible, une famille voit peu à peu ses blessures les plus profondes refaire surface. Nous parlons de Blue Aaron.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui?
Cinérama.
Eh bien, oui, je crois que oui.
Alors, si vous deviez retenir un seul film cette semaine, hein, et je m'excuse auprès de mes collègues ici dans les studios, un seul film à retenir, donc, ce serait celui-là, à mon sens, Blue Aaron, premier long métrage de la cinéaste canado-hongroise Sophie Romvary, et probablement un des films les plus acclamés de l'année jusqu'ici, chose rare pour un film aussi intime. Et donc, pour une fois, j'ai bien envie de me ranger du côté du consensus critique. Rome Varis s'était déjà faite remarquer avec plusieurs courts-métrages autobiographiques autour du deuil et de la mémoire, comme Still Processing, avec Blue Heron, le héron bleu, pour la traduction. Elle passe au long et signe une œuvre d'une maturité assez sidérante, récompensée notamment à Locarno, au Festival du Nouveau Cinéma de Montréal, et j'en passe. C'est un film éminemment politique, à sa manière, une manière feutrée, car c'est l'histoire d'une famille hongroise immigrée au Canada et livrée dans les années 90 à des institutions, psychiatrie, services sociaux, qui n'avaient ni le vocabulaire ni les outils pour accompagner cette famille et nommer correctement ce qui arrivait à l'aîné de la fratrie.
Jason, he wanted to let us know that our son is dead on the front step.
Fin des années 90, Sacha a 8 ans, elle est la cadette d'une famille hongroise fraîchement installée sur l'île de Vancouver. Sous le regard d'une mère débordée et d'un père effacé derrière son ordinateur, Jérémy, l'aîné, issu d'une première union de la mère et donc le seul blond de la famille, commence à avoir des comportements de plus en plus erratiques, que personne ne sait ni nommer ni contenir. Mais Sacha, elle, ne comprend pas vraiment ce qui se passe et nous non plus. On suit pendant un long moment des bribes de cet été dans cette famille, au plus proche du regard de cet enfant, Sacha. Le film bascule ensuite, 20 ans plus tard, Sacha adulte, incarnée par l'excellente Amy Zimmer, est devenue cinéaste et elle mène l'enquête sur ce frère aujourd'hui disparu, interrogeant des travailleurs sociaux avec qui elle tente de recomposer l'histoire et de découvrir qui était son frère. Ce que ce projet documentaire lui révèle dépasse largement ce qu'elle croyait savoir de son enfance. Visuellement, Rome Varis et sa chef opératrice Maya Bankovic misent sur une caméra tantôt subjective et évanescente, tantôt distante. Elle filme en focale longue avec des branches, des encadrements de portes en amorce, à travers des fenêtres ou des feuillages aussi. On épie un peu chaque scène à hauteur de Sacha. Effet voyeuriste assumé, pendant presque une heure, on ne comprend pas grand-chose. Jérémy semble juste être un ado en crise, les parents s'effondrent pour des broutilles. On s'ennuie un peu. Sciemment, exactement ce que perçoit une enfant finalement durant un long été face à ce mix de langueur et d'agitation dont les causes lui échappent. Puis le film bascule et avec Sacha adulte et cinéaste, tout se réorganise. Pas seulement les événements, mais la manière dont ils nous ont été relatés. La voix-over qui ouvrait le film était déjà la sienne, celle de Sacha. On n'observait pas cette famille de l'extérieur, on assistait à l'enquête d'une sœur, découvrant peut-être un peu trop tard qu'elle n'a jamais vraiment connu son frère. Le récit familial devient une méditation sur la mémoire. Les souvenirs n'y sont pas des archives, bien que voilà, il y a un jeu autour de l'archive fictive. Mais le souvenir s'illustre plutôt comme une reconstruction qu'on fabrique pour donner forme à ce qui nous échappe. Et c'est là que Blue Heron offre sa troisième partie. En apothéose, Sacha adulte reprend la route vers l'île de Vancouver, toque à la porte de la maison d'enfance que lui ouvre son père d'avant. Elle se glisse dans son propre passé, dans la peau de l'assistante sociale, croise son moi de 8 ans et lui glisse à l'oreille un murmure qu'on n'entendra jamais. Moins un effet à la Interstellar qu'un geste de cinéma documentaire, une cinéaste qui entre dans sa mémoire pour en examiner les zones d'ombre, chercher moins la vérité que ce qui lui a véritablement échappé et on le devine, arraché un peu de ce temps volé. La parenté avec Aftersun dépasse l'ambiance. Charlotte Wells filmait déjà une adulte ressaisissant par fragments un parent disparu, mais la référence la plus juste reste peut-être l'excellent documentaire Stories We Tell de Sarah Polley, avec cette même reconstitution actée de l'enfance, ce jeu avec de l'archive et aussi accessoirement un grand prix décroché au Festival du Nouveau Cinéma de Montréal à 13 ans d'écart. Enfin, pour moi, la vraie lignée se retrouve dans Every Time de l'Autrichienne Sandra Wollner, grand prix d'un certain regard à Cannes cette année qui sortira à la rentrée, avec la même hallucination temporelle qui absorbe le réel et le même chef opérateur que Aftersun aussi.
Talk to me! Hey, talk to me!
And how is he with his siblings?
He's very sweet.
Le héron reste immobile des heures avant de fondre d'un coup d'aile précis sur ce qu'il cherche. Et c'est exactement la posture de cinéma de Sophie Rumvary, hein, qui est patiente, silencieuse, puis soudain d'une justesse qui frappe en plein dans le mille. On ne sort pas de Blue Heron avec des réponses sur cette famille, mais on en sort plutôt hanté par la puissance des questions qu'il soulève. Combien de silences nos parents ont-ils tissé autour de nous, notamment, hein, par amour, pour qu'on grandisse un petit peu moins cassé.
Blue Heron est en salle, hein, depuis le 24 juin. Quand la vengeance prend les ailes d'une simple mouche, elle devient aussi spectaculaire qu'inattendue. Nous parlons de Heiga, la mouche vengeresse.
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
This is Cinerama.
Vous ne m'êtes pas très sympathique.
Alors bien avant, hein, que le monde entier ne découvre Sesra Jamouli grâce au phénomène Bahu Bali, hein, et RRR, hein, certains cinéphiles curieux avaient déjà repéré son génie. Il y a plus de 10 ans, la simple vision de la bande-annonce de Heiga, la mouche vengeresse, hein, suffisait à déclencher une commande de Blu-ray à un import indien. Car comment résister à un film racontant l'histoire d'un jeune homme assassiné qui se réincarne en mouche avant de revenir harceler son meurtrier pour se venger ? Alors sur le papier, hein, tout cela aurait pu être parfaitement ridicule, hein, mais en réalité, c'est une démonstration de mise en scène. Rajamouli, hein, prend son concept absurde avec un sérieux absolu et le transforme en spectacle virtuose. Chaque séquence, hein, exploite avec une inventivité folle, hein, les possibilités offertes par son improbable héroïne ailée, et ce qui n'aurait pu être, bah, qu'une plaisanterie digne d'un court-métrage devient pêle-mêle un véritable film d'action, une romance tragique et une comédie inventive, hein, le tout porté par une énergie communicative. Alors on ne peut donc que saluer l'initiative de Carlotta Film, hein, qui semble avoir parfaitement compris l'intérêt grandissant du public français pour le cinéma indien et pour la filmographie de Rajamouli en particulier, bah, surtout que Heiga est sans doute, bah, l'une des meilleures portes d'entrée dans l'univers d'un cinéaste qui n'a jamais eu peur, bah, de transformer les idées les plus folles en grand cinéma populaire. Ça marche, hein, il est depuis adoubé par Spielberg et Cameron lui-même.
Et puis la Cinémathèque lui rend un petit hommage. Et si nous parlions très vite du dernier Toy Story ?
Oui, rapidement, parce qu'on pourrait se dire qu'est-ce qu'il reste à raconter, hein, après Toy Story 2, hein. La question se posait déjà avec le troisième film, hein, qui trouvait malgré tout une justification dans son final mémorable, hein, que personne n'a pu oublier. Elle devenait un peu plus embarrassante, cette question, avec Toy Story 4 et son écriture problématique. Toy Story 5 doit, bah, encore une fois, jongler entre passé, bah, de maintenant 30 ans à gérer et nouveauté pour le jeune public d'aujourd'hui. Cette fois, hein, les jouets de Bonnie se retrouvent confrontés à un nouvel adversaire, Lilypad, une tablette en forme de grenouille verte qui capte toute l'attention de la petite fille. C'est un excellent point de départ, hein, puisqu'après avoir exploré l'abandon, hein, le vieillissement ou encore la transmission, la saga s'attaque désormais à une question très contemporaine. Que peut faire un jouet traditionnel face aux écrans ?
Bonnie, il y a un colis pour toi.
Oh, merci, merci. Salut, je m'appelle Lilypad. Jouons ensemble.
Oh, c'est l'extinction, ça recommence.
À la surprise générale, le film s'en sort plutôt bien. Hein. Andrew Stanton, figure historique de Pixar, évite soigneusement, hein, le piège du discours réactionnaire sur les jeunes et leurs écrans. Hein, le récit ne transforme jamais totalement la technologie en grand méchant et refuse, bah, la posture du vieux râleur nostalgique. L'approche un peu plus nuancée, hein, fait toutefois regretter que le scénario n'ose jamais véritablement explorer, bah, les véritables dérives, hein, du numérique contemporain ni les questions qu'elles soulèvent. Mais le sujet est traité avec suffisamment de finesse pour éviter la caricature. Mais le principal mérite du film réside ailleurs. Hein. Le véritable enjeu émotionnel qui tourne autour de Jessie débouche sur l'un des moments les plus réussis du film, rappelant soudain le talent unique de Pixar, et trop rare à mon goût depuis bien 15 ans, hein, lorsqu'il s'agit de donner une profondeur existentielle à ses personnages. Le reste est franchement plus inégal, hein, même si ce n'est jamais déplaisant. Stanton, hein, ne prend finalement que peu de risques, mais sauve les meubles avec un savoir-faire indéniable et quelques belles intuitions.
Ce Toy Story est actuellement dans plein de salles françaises.
Je vous trouve si nerveux. Quelque chose ne va pas ?
Terminé pour aujourd'hui.
Pas si vite.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé.
Ça ne me dérange pas le moins du monde.
Je ne comprends pas ce que vous essayez de me dire.
Il lui arrive quoi, elle ?
Au revoir.
Pardon ?
J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir.
Oui, ça ne fait aucun doute.
Ça ne servirait à rien de le nier.
Merci.
On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière émission de la saison et tu auras un film, Sophia.
Oui, le documentaire Ghost Elephant de Werner Herzog.
Et puis toi, Guillaume, un film ?
In the End of Dante.
Oui, c'est presque un jeu de mots. Et puis sinon, moi, je vous parlerai de De Gaulle et puis de deux autres films. À la semaine prochaine.
S.D. Plisken, américain, lieutenant de la brigade spéciale Lumière Noire. Deux médailles militaires, Leningrad et Sibérie. Le soldat le plus jeune à avoir été décoré par le président. Hold-up du dépôt des réserves fédérales. Condamnation à perpétuité dans le pénitencier de New York. Je vous aurai condamné à la chaise électrique, tout héros que vous soyez.
This is Cinerama. 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 Cinerama.